Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Du samedi 6 juin au dimanche 7 juin à la Colle, à Gréoux-les-Bains, 24 heures de buto, une traversée proposée par la compagnie Empreinte en mouvement. D'ailleurs, la compagnie est sur le plateau, enfin une partie de la compagnie. Lorna, directrice artistique de la compagnie Empreinte en mouvement. Bonjour Lorna.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui.
C'est un plaisir de vous recevoir sur le... sur le plateau. Alors, 24 heures non-stop d'ateliers, de performances, de tables rondes et de moments participatifs autour du buto. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet événement, les 24 heures de buto ?
Oui, déjà, merci pour l'invitation. Et en fait, c'est un événement qu'on a commencé à imaginer depuis un certain temps. En tout cas, pour moi, il y a quelques années déjà que cette idée de dépasser ou d'expérimenter avec la notion de temps autour de la danse buto, mais voilà, mais trotter dans la tête, comme on dit. Et parce que la danse buto, après je l'expliquerai un petit peu, il y a quelque chose à dire à propos de notre rapport au temps.
Voilà. La lenteur aussi.
Oui, il y a un rapport à la lenteur, un rapport à la proprioception, un rapport aux détails du corps, à la vie intérieure et extérieure du corps, qui fait qu'on peut décloisonner notre notion habituelle du temps. Et un retour qui revient très souvent après les stages, après les ateliers, ou même pour les danseurs, danseuses avec lesquels je travaille, c'est « Ah, on a perdu la notion de temps ». Ce qui nous arrive souvent en art, non ? Les peintres ou les musiciens peuvent avoir souvent cette notion que l'art, des fois, nous importe un peu ailleurs dans notre temps chronologique habituel. Et c'est ainsi qu'à chaque fois, dans les stages, différentes expériences, on s'est trouvé à danser souvent à l'aube, au crépuscule, au milieu de la nuit, à venir expérimenter cette temporalité, des passages aussi entre la lumière et l'ombre, le début de la journée, et observer les temps. C'est drôle parce que j'ai écouté tout à l'heure cette petite chronique autour de pourquoi le ciel est bleu. Ça m'a touchée parce qu'on a beaucoup parlé ça à l'heure de faire de la programmation, parce qu'on voulait que dans la programmation, il y a des moments où on puisse apprécier les changements de lumière autres que par nos montres ou nos horloges. Donc c'est ainsi, ça me permet aussi de présenter un peu l'événement. Il va y avoir par exemple une performance au moment du crépuscule, une autre au moment de l'aube, qui va nous permettre de vivre ces moments en plein air et à vivre avec une proportion artistique ces déroulements de temps.
Au rythme de la nature
au
également.
Au rythme de la nature. Effectivement.
Alors certains, parce que je me suis renseigné donc sur le buto, bon, on dit que vous allez le développer un petit peu au carrefour de la danse, de la technique, du théâtre. Et certaines personnes qui ont participé à des stages ou qui apprennent le buto disent qu'ils vont beaucoup mieux en le pratiquant, c'est vrai. Et ils disent que c'est de l'ordre quelque chose qui de l'ordre du bien-être, que ça leur fait du bien à leur corps, à leur esprit, que ça leur permet également d'exprimer leurs émotions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, je suis d'accord. Et du moment que tout art qu'on pratique peut nous faire du bien, non, toute pratique artistique en général, c'est très bénéfique.
Mais justement, dans ce rapport à la lenteur, justement, est-ce que...
Oui, et il y a un rapport peut-être au corps qui nous permet de prendre conscience des choses de nos corps qui peut-être habituellement ou dans des autres danses on n'a pas l'opportunité de prendre compte. Je pense que toutes les danses de toute façon à leur façon ouvrent certaines choses au niveau du corps, mais peut-être les buto bien très doucement, très précisément et très lentement à nous sourire. C'est pas qu'une danse de la lenteur. Je l'expliquais justement dans une formation il n'y a pas longtemps. La lenteur, ce n'est pas juste une caprice esthétique ou une imposition technique. C'est ce besoin de vraiment aller petit à petit, détail par détail, parce qu'on commence à comprendre l'infinitude de notre corps et la complexité de notre corps. Donc, on commence à bouger un main et on se rend compte que c'est tellement énorme la quantité de possibilités, de juste déployer un bras, qu'on commence à les faire vivre avec beaucoup plus de soins, beaucoup plus de dédication, etc. Ce qui n'empêche qu'après, on peut être à des grandes vitesses parce qu'on travaille beaucoup les souffles, le travail du centre, comme dans les arts martiaux. Il y a beaucoup, du fait que la danse buto vient du Japon, il y a un background qui vient beaucoup des arts martiaux. Donc, les arts martiaux aussi ont une grande conscience du corps, précision, une économie dans la force, comment utiliser, optimiser la force pour avoir une pour voir que chaque mouvement ait la force juste et pas de trop ni de moins. Donc, tout ce type de problématiques vient s'échoindre à l'expression aussi. Il y a qu'est-ce que c'est un corps qui danse, qu'est-ce que c'est un corps qui s'exprime. Parce que dans la danse buto, il n'y a pas d'âge. Je défends beaucoup l'aspect intergénérationnel de cette danse qui me tient à cœur. Et pour revenir à la programmation très rapidement de cet événement, on a quelqu'un qui va avoir bientôt, je ne sais pas exactement son âge, mais elle va, je pense, dans pas longtemps avoir peut-être 80 ans. Et c'est une des personnes qui est une des initiatrices de la danse buto japonaise.
Et qui a fait le déplacement depuis le Japon pour venir.
Ouais. Bon, elle habite entre Berlin au Japon. Mm-hmm. Ah, elle vient de Berlin, on le ressemble, sinon ça ne saurait coûter trop cher. Mais elle a la moitié de sa vie au Japon aussi, à ce moment. Et Yumiko Yoshioka, qui d'ailleurs... Après cet entretien, je vais la rencontrer à Marseille parce qu'elle va aussi donner un masterclass à Marseille. On s'est arrangé avec une compagnie de Marseille pour que aussi, comme prolongation du festival, elle donne les masterclass aujourd'hui même, cet après-midi. Donc, je cours après à la rencontrer. Et après, elle vient aux 24 heures. Et elle, c'est quelqu'un qui continue à danser et qu'on a la grande chance qu'elle va danser lors de 24 heures et va donner un atelier de 6 heures. Et son corps, vraiment, n'a pas d'âge. C'est vraiment quelqu'un qui est... Et ce n'est pas pour que ce soit quelque chose d'extraordinaire, c'est aussi parce que c'est une pratique qui vient ouvrir ces espaces pour qu'un corps puisse danser, si l'on veut, toute sa vie, s'exprimer avec ce qu'il y a à dire à chaque moment de la vie aussi. Non?
Comment est née l'idée d'organiser un événement sur 24 heures non-stop?
Bien. Et oui. En fait, pour revenir à
ça. J'allais forcément vous poser la question.
Ben, cet événement a la particularité d'être quelque chose qui n'est pas très habituel, justement, parce que tout le monde nous disait « Ah, mais qu'est-ce que c'est ? C'est une expérience ? C'est un festival ? Qu'est-ce que c'est ?» Et nous, on dit « Bon, c'est une chose difficile à définir parce que c'est une traversée collective qu'on propose, dans le sens qu'il va y avoir des moments participatifs où tout le monde va se retrouver à participer, et des autres où on va se retrouver en tant que public à regarder une performance, à écouter peut-être une musique autour d'une performance, etc. Et pourquoi c'est venu? Parce qu'on se rendait compte qu'en buto aussi, cette question de dépasser le temps, en tout cas moi, comme je disais précédemment dans ma pratique, il y a cette question où le temps peut s'étirer indéfiniment et qu'on peut continuer sans forcément couper, et ça peut se transformer en autre chose, et ça peut encore se transformer en autre chose. Et on peut peut-être... D'ailleurs, l'idée, ce n'est pas forcément tout le monde obligé, disons, de vivre les 24 heures. Les gens auront leur espace pour se reposer, revenir 2 heures après, mais peut-être on dort 3 heures, on vient à 4 heures du matin, il y a encore une chose qui est en train de se passer, je peux la joindre, le regarder et encore me reposer. Et vivre un temps qui nous décale un peu de notre temps, justement, de système dans lequel on vit, de notre vie quotidienne, et dire comment les corps peuvent vivre ça en dehors de ses habitudes. Non? Et chercher là la danse, dans une danse qui ne correspond pas à nos habitudes, à nos attentes habituelles.
Alors, par exemple, que va-t-il se passer concrètement durant ces 24 heures? Si une personne a envie de passer 24 heures.
Oui.
Ou alors quelques heures. Exactement. Comment ça concrètement?
Concrètement, au tout début, il va y avoir une ouverture avec une première performance qui s'est organisée par un collectif qui s'appelle Blob, qui est en grande partie le collectif qui a organisé cet événement avec moi, que je peux nommer Jou, Polo, Sabi et Delphine, c'est l'équipe de choc, dont Sabi qui a fait les beaux affiches.
Ouais, très belle affiche, oui. Vous la retrouverez sur le site de Fréquence Mistral. Je signale juste à nos auditeurs que vous pouvez toujours, comme d'habitude, nous retrouver sur le réseau, et vous retrouverez l'émission, cette interview avec vous, Lorna, sur le site de Fréquence Mistral, fréquencemistral.com, onglet Manosque.
Merci.
Et vous reverrez justement l'affiche et vous aurez les coordonnées de ces 24 heures.
De ces 24 heures. Donc, pour continuer avec le déroulement. Et ensuite, par exemple, pour vous raconter le début, il va y avoir un atelier de Maki Watanabe, qui est une Japonaise qui habite en ce moment à Paris, qui est dans le Japon, les Paris aussi, et qui va commencer avec un atelier en première proposition collective pour tout le monde d'ouverture. Ensuite, il va y avoir des performances qui vont commencer à s'enchaîner jusqu'au moment des crépuscules, que c'est un premier moment pour venir apprécier ensemble collectivement ces changements qui va faire nous rentrer dans la nuit avec les premières étoiles. Et ainsi, successivement, après, il va y avoir une table ronde où on voudrait que tous les artistes parlent justement de tous ces propos autour de temps. D'ailleurs, il y a eu une petite commande de la part de l'équipe à tous les artistes, et même les gens qui vont donner des ateliers, c'est de travailler sur la notion d'espace-temps. Pour les orientales, notamment pour les Japonais, le temps, c'est l'espace. L'espace, c'est le temps. La notion d'espace et de temps ne sont pas dissociées comme en Occident. Donc pour nous, ça déjà, c'est très intéressant parce que dire un mouvement, c'est un espace et c'est aussi un temps. Tout ce qui se déroule dans le temps se déroule dans l'espace aussi. Et déjà, ça ouvre toute une série de choses. Donc tout ce qui va se passer, ça va être autour de cette thématique-là.
D'accord. Et par exemple, à qui s'adressent les ateliers et les moments participatif.
Bien. Et tout est vraiment ouvert à tout public. Quand on a invité les gens à s'inscrire...
Il faut s'inscrire au préalable ou...
Il y a un site Hello Asso où bien. Tout est expliqué comment s'inscrire. Et en fait, c'est ouvert à des personnes qui ont pratiqué les butos, mais à des personnes qui n'ont pas pratiqué les butos aussi. On a fait en sorte qu'ils soient adaptés aussi.
Faut-il avoir une expérience tout de même en danse pour participer?
Je dirais l'expérience dans une pratique artistique quelconque, une curiosité, peut-être une curiosité pour la dimension expressive, par la dimension corporelle, par les questions artistiques. Si, peut-être une curiosité pour venir faire une expérience, ça sans doute. Mais après, les gens sont libres de participer ou pas, selon... On a joué un peu, on joue les jeux un peu jusqu'au bout de ne pas forcément donner... aux gens en programmation avec des sœurs. Les gens n'ont pas de programmation.
Justement, oui, on revisite le temps.
C'est ça, on revisite le temps. Donc, on a dit, on ne va pas faire comme dans tous les festivals, qu'on a des 5 à 6, il y a ça, des 6 à 7, il y a ça. Parce que ça, on le vit déjà tous les jours.
Oui, comme vous disiez, là, c'est de l'ordre de l'expérience. C'est 24
donc,
heures.
On dit, venez, il va voir tout ça. Il va se passer tout ça, vous allez voir comment.
Faites-nous confiance, venez. Faites-nous, lâchez prise.
C'est une grande responsabilité de la part de l'équipe, mais on va voir cette première année comment.
C'est une très belle proposition.
Donc ça s'échoue beaucoup dans les transitions. On croit que les transitions vont être des moments assez importants. Comment un atelier va finir et on va se retrouver après un atelier tous et toutes à regarder une performance. Et après une performance, on va se retrouver toutes et toutes à discuter simplement. Tout ça. En espagnol, on a une phrase que moi j'aime beaucoup, je l'utilise souvent dans mes ateliers, qu'on dit « sin prisa, pero sin pausa ».
Oui, il ne faut pas être pressé, mais il ne faut pas de pause. Donc, ouais, c'est ça,
sans se presser, mais sans s'arrêter.
Sans s'arrêter. Voilà.
Doucement, continuellement, en essayant de suivre un flou ensemble.
Oui, un flou. Ouais, alors, je vous propose d'écouter une petite musique, ma chérie, et on revient tout de suite.
Ma chérie. Ma chérie, ma conoya, doko maninde ikana pesena. Ne sera maluma, oluma frodo, ne sera faluma, oluma frodo, ne sera togotoroluma, oluma frodo, ne sera anteriluma. Oluma frodo, ne mirila jarabila. Avion ye deli farala, mobile ye deli farala, moto ye deli farala, terrain ye deli farala, teri yugu ye kanu farala, kanamu kofuma me, bari yugu ye frutiena. Ikana pesena, pesena, ikana pesena, pesena, ikana pesena.
dogo maninde ikana kresena.
Vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Mistral dans le magazine À la bonne heure. En notre compagnie, nous avons Lorna, directrice artistique de la compagnie Empreinte en mouvement, pour l'événement 24 heures de Buteau, une traversée très intime et collective à la colle à Gréoux-les-Bains. Pourquoi avoir choisi ce lieu, justement, la colle ?
La colle, c'est le lieu de la compagnie Béga Théâtre, qui est une compagnie du 04, qui nous semble un lieu assez approprié parce que c'est un lieu de création et aussi un lieu de rassemblement et qui a une salle de danse, des espaces extérieurs, des espaces d'accueil. Et aussi, c'est un lieu où se passent des choses en général assez extraordinaires, où ils sont passés, où ils se passeront, je ne sais pas après. Et ça nous a paru bien de pouvoir être en collaboration, parce que vraiment, on est très, très contents dans l'accueil et tout, comment ils ont vraiment accueilli notre projet. Et c'était aussi l'opportunité de que la compagnie fasse un petit peu d'un crash dans les 04, comme je te disais précédemment. Empreinte en mouvement travaille aussi, moi je travaille beaucoup sur des projets à Paris, sur des projets à Aix, dans la Drôme, etc. Et après 10 ans finalement que la compagnie existe, on voulait aussi poser un acte avec un événement qui se passe ici et que les gens connaissent un peu tout ce qui est. Donc aussi, je suis très touchée par l'équipe qui accompagne cet événement. Nous sommes vraiment très touchés parce qu'il va venir finalement beaucoup de gens de Paris, notamment une compagnie qui vient danser de Paris, avec laquelle je travaille il y a longtemps, et Takwabe. Aussi, il va y avoir la compagnie Orphénie Théâtre qui travaille entre ici et la Drôme et Paris depuis longtemps. Je tiens beaucoup dans cette programmation à inviter des groupes parce que la danse Buteau est très connue par des solos, par la figure des solos. Il y a souvent parce que c'est tellement, justement, comme on disait, très intime. C'est très difficile de danser en collectif. Et en même temps, c'est un défi que moi, ça me touche énormément parce que c'est comment on se met dans cet endroit, mais sans se refermer à mon propre bien-être, moi-même, etc. À dire, on est ensemble.
Il y a aussi le collectif.
Exactement. Oui. C'est pour moi un aspect très politique qui me tient à cœur de dire, on se reconnaît ensemble aussi comme au corps collectif, pas seulement dans une petite chose personnelle.
Oui, c'est vivre ensemble aussi. Alors, il y aura des tables rondes, ouais. Des moments participatifs autour du Buteau, ouais. Des performances, des ateliers. Alors, on peut très bien s'inscrire pour tous les ateliers 24 heures ou alors s'inscrire seulement pour quelques heures, c'est ça ?
Non, pas
non,
du tout.
D'accord.
Non, il y a un pass unique.
Ah,
cette
oui,
première
voilà,
année,
ça.
On a dit, on fait une pass unique qui qui puisse avoir une dimension accessible pour les personnes qui peut-être, c'est pour ça qu'il y a une fourchette des prix, les personnes qui peuvent apporter plus apportent plus, celles qui ne peuvent pas apportent moins. Mais on a fait un pass unique, ça nous parut pour cette première année les plus simples, pour que les gens se sentent tentés peut-être de faire un peu plus et qu'il n'y a pas « je fais ci ou je fais ça », parce que ça rassemble finalement à la question de découper les sœurs. Non, et on essaye
justement, de rentrer dans... Il n'y a plus d'heures.
Voilà, il n'y a plus d'heures, il n'y a plus de... Bon, on est là, on peut participer, on ne peut pas. Si on rate un petit moment, ce n'est pas grave. Justement parce que quelqu'un me disait dans un autre entretien, on disait « ah, mais on va avoir peur de perdre des choses parce qu'il y a tellement de choses intéressantes ». Je dis « bon, des fois, il faut accepter qu'on ne peut pas tout faire ».
C'est vrai.
On laisse passer les choses aussi. Donc, c'est une invitation aussi à ça, à ne pas vouloir tout consommer.
Et ne pas être surtout dans le contrôle de tout et à chaque instant. D'où vient cette forme artistique ?
Et la danse muto est une danse contemporaine, et est née dans les années 60 au Japon. Donc, sa particularité, en plus d'être un art contemporain, comme toutes les danses et les mouvements artistiques des années 60, d'être très avant-gardiste, elle a la particularité d'être née au Japon, donc elle a un pied en Orient et un pied en Occident, on dit souvent, parce qu'elle était très influencée par les mouvements avant-gardistes des années 60 en Allemagne, l'expressionnisme allemand, la danse contemporaine américaine, les peintres de l'époque, les philosophes de l'époque. Et en même temps, il y avait une grande revendication de certaines traditions japonaises qui s'est perdue après justement avoir perdu la guerre. Ils voulaient revendiquer un peu l'esprit japonais contre toute cette invasion américaine. Donc, il va y avoir dans les butos certains éléments des arts traditionnels, un peu détournés, un peu contemporanisés. C'est pour ça que je parlais avant des arts martiaux. Donc, il va y avoir un travail, des fois corporel, très ancré à la terre, au centre, à la respiration, qu'on peut trouver dans les arts martiaux, mais en même temps, un côté très contemporain qui est emprunté ou partagé avec tous les mouvements mondiaux de cette époque-là. Donc, ça fait un peu la différence par rapport à la danse contemporaine qu'on voit normalement. Il y a un élément vraiment de croissement culturel très fort qui se fait ressentir dans son abordage, comme je dis, intergénérationnel, l'appréciation que peut avoir la culture japonaise par tout ce qui est les passages du temps, les personnes âgées, c'est les sages. C'est, il n'y a pas une recherche de la performance, sinon plutôt de la sagesse et de la profondeur et du détail qui est de l'acrobatie et de la performance physique, par exemple.
Est-ce que le buto repose sur une technique précise ou sur un état de présence ?
Je dirais les deux.
Oui, les deux. Enfin, d'après ce que je crois comprendre, ce que je découvre.
Oui, parce que c'est souvent la grande discussion, est-ce qu'il y a de la technique, il n'y a pas de la technique. Et beaucoup d'entre nous, comme moi, on défend la technique, parce que quoi qu'il en soit, on doit s'entraîner. Mais s'entraîner, ça ne veut pas dire faire de la marathon. Et l'entraînement, c'est plonger dans son corps, dédier du temps à connaître son corps, à connaître sa façon de respirer.
Comme vous disiez, déployer une main, elle peut se faire d'une X manière. Donc, on peut juste travailler sur ça pendant quelques heures, c'est ça?
Déjà, c'est ça l'entraînement, parce que ne serait-ce que mettre toute son attention sur quelque chose, c'est...
Et là, il faut un état de présence.
Un état de présence, effectivement.
Et quelle place occupe l'improvisation et l'imaginaire dans cette pratique?
Aussi, tu parlais tout à l'heure d'un état de présence, et dans cet état de présence, souvent, on va être traversé par des états du corps différents, par des choses qui nous touchent, par notre propre expression, par ce qui nous entoure. Donc, en buto, souvent, on va peut-être se relier à la nature, ici et maintenant, on peut danser un changement de lumière, on peut danser les mouvements de l'eau, on peut danser les mouvements du roger, etc. On va être beaucoup, je ne dirais pas inspiré, sinon en connexion avec ces éléments qui sont partis. Ça, c'est en fait le background oriental, dire l'univers est en nous et nous sommes partis de l'univers. Donc, c'est simplement laisser que ces parties en nous, qui sont très reliées à l'univers, puissent danser. Ça, des fois, on va travailler des marches animales aussi, avec certaines énergies un peu plus puissantes de certains instincts animaux, sans tomber dans la représentation, mais on va chercher quelque chose peut-être de plus fort à certains moments. Et les voyages peuvent être très, très simples. Il n'y a pas forcément une codification stricte, mais autre que présence, qu'imagination, j'aime bien les mots état du corps, comment chercher des états ou des intensités du corps qui puissent danser, non?
Et je me posais, alors, vous dites, vous parlez également d'une capacité du Buto à ébranler nos identités assignées. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette idée?
Et ça nous tient à cœur aussi comme équipe dans cette 24 heures et dans la compagnie Apprendre un moment. Parce que aussi les Buto finalement, depuis les années 60, commencent à continuer à se nourrir. Et aujourd'hui, dans tout ce que c'est la pratique des Buto, on vient de plus en plus à revendiquer la possibilité de transformation du corps. Et dire, la danse est une possibilité de transformation et de découvrir qui nous sommes vraiment au-delà de notre identité sociale assignée, de notre identité de genre, de notre identité administrative, de notre identité d'âge. Pourquoi une personne qui a 80 ans ne pourrait pas danser? Pourquoi quelqu'un qui est né ici ou né ça ne peut pas danser, ne pourrait pas s'exprimer d'une façon ou d'une autre? Donc, c'est des questions qui deviennent finalement très actuelles, mais qui pour la danse Buto sont
déjà... C'est une évidence.
C'était une évidence qu'on peut se transformer dans ce qu'aujourd'hui on a envie de se transformer pour danser. Et pour moi, finalement, il y a quelque chose de très politique, très revendicatif là derrière. Quand on dit une identité assignée, c'est comme si on ne pourrait pas se déplacer de cette personne avec certaines habitudes sociales ou culturelles. Je peux être aussi ça et danser comme ça, tu parlais tout à l'heure.
En fait, donc, le Buto, pour nous aider, ce n'est pas le bon mot, apporter un regard différent sur nous-mêmes et sur les autres, sur notre propre corps et sur le corps des autres.
Exactement, Okay. C'est de pouvoir, du moment que je me permets de devenir autre chose, je comprends que les autres aussi puissent devenir autre chose, autre personne, autre...
Et qu'est-ce que vous aimeriez que lors de cette rencontre, que les personnes qui vont s'inscrire retiennent ou repartent avec quelque chose de très sensible, je pense, non?
Oui, on parle beaucoup de cette traversée partagée, comment partir peut-être avec quelque chose de personnel, mais aussi de collectif à la fois, d'avoir traversé ou d'avoir découvert quelque chose qui se joue dans cette frontière-là, non? L'intime peut être aussi collective et vice-versa, et en même temps, mon espace personnel est très respecté et très nourri, mais je suis nourrie et une porosité.
Oui, et avec la nature également.
Très important, l'effet d'avoir choisi la colle, on va faire tout ce qui soit possible en extérieur. Et autre chose que le temps et ce système nous a coupé beaucoup, non, de notre lien à ce qui nous entoure, et pourtant on fait partie.
Totalement.
Donc, si effectivement l'expérience peut aussi collaborer à renouer ces liens, on sera contente.
C'est une très belle proposition, en tout cas. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Lorna?
Non, peut-être juste à dire qu'il y aura aussi un sculpteur, dessinateur qui s'appelle Bob Morse, qui va être tout au long des 24 heures à créer, à dessiner et à faire une sculpture qui va être comme un témoignage de ces 24 heures. Il va accompagner les performances et qui va avoir aussi des compagnies de Marseille comme la compagnie Amaco ou des compagnies de la Drôme comme la compagnie Transit. Enfin, les théâtres, je l'ai déjà nommé, les collectifs Plof, Takwabe, bon, bref. Tous ces artistes qui ont accepté vraiment les défis de cette première édition et que je voudrais juste remercier.
Mais mon petit doigt, je ne sais pas, mais me dit que ça ne va pas être la première et la dernière. J'ai l'impression qu'il y en aura d'autres.
Apparemment.
Alors, 24 heures de Buto, une traversée proposée par la compagnie Empreinte en mouvement. Merci Lorna. Tout cela se passe le samedi 6 juin et le dimanche 7 juin, 24 heures non-stop, à la colle, à Gréoux-les-Bains. Merci Lorna.
Merci beaucoup.